depuis maintenant plus de 12 ans. Donc je présente rapidement nos deux, rapidement bien sûr parce qu'ils ont beaucoup de travaux à leur actif, nos deux intervenants. Paul Valadier est théologien et philosophe, religieux jésuite. Il a fait des études de philosophie, une maîtrise de théologie à l'université, à la faculté jésuite de Lyon-Fourvière, et un doctorat d'état à Paris-10-Nanterre, avec une thèse publiée aux éditions du CERS, Nietzsche et la critique du christianisme, qui a été faite sous la direction de Paul Ricoeur, dont Olivier Abel est lui-même un grand spécialiste. Il a été directeur de recherche au CNRS, à l'université de Rennes, et ses travaux ont été consacrés à de très nombreux sujets. Il a été rédacteur en chef de la revue Études, directeur des archives de philosophie, et professeur à l'Université catholique de Lyon, etc. Je ne parcours pas toute sa biographie. Je cite quelques-uns de ses livres les plus récents, parce que c'est une longue liste de publications. L'an dernier, La beauté fait signe, Art, religion, morale, aux éditions du CERF. L'exception humaine, aux éditions du CERF, toujours en 2011. La morale sort de l'ombre, chez Desclés de Brouwer en 2008. Du spirituel en politique, chez Bayard en 2008. Détresse du politique, force du religieux, aux éditions du Seuil en 2007. Morale en désordre, un plaidoyer pour l'homme en 2002, aux éditions du Seuil, etc. etc. Je présente maintenant second intervenant. Il s'agit d'Olivier Abel, qui a une formation de philosophe et qui est aujourd'hui professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie Paris. Il y est d'ailleurs depuis 1984. Il a publié lui aussi de nombreux ouvrages. J'en cite quelques-uns. Le Pardon, aux éditions Autrement en 1991. Paul Ricoeur, La promesse et la règle, chez Michalon en 1996. L'éthique interrogative aux presses universitaires de France en 2000. La conversation, chez Gallimard en 2006. Jean Calvin, aux éditions Pygmalion en 2009, etc. Je signale pour ceux qui sont plus particulièrement intéressés par son travail et ses orientations qu'il a un site internet, olivierabel.fr. Sur lesquels vous pouvez trouver ses orientations de recherche et un certain nombre de ses contributions. Donc, les choses vont se dérouler de la manière suivante. Paul Valadier va d'abord prendre la parole pour 35 minutes à peu près, puis ensuite, ce sera au tour d'Olivier Abel, là aussi pour une durée plus ou moins du même ordre, et puis ensuite, eh bien, ce sera le temps pour vos questions. Voilà. Je donne tout de suite la parole à Paul Valadier. Merci.
Merci beaucoup Yves Michaud. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Juger la violence nous met devant un dilemme peut-être insoluble. D'un côté, nous sommes tentés de dire les hommes ont toujours été violents, ils le sont aujourd'hui, ils le seront très vraisemblablement demain. La violence a pris au long des âges des formes inattendues et par conséquent, à quoi bon juger ? Et d'un autre côté, il est bien difficile de rester totalement insensible devant l'inacceptable, les crimes contre l'humanité, les génocides, la pédophilie, les viols. Et par conséquent, on est porté à se dire, sans doute est-ce difficile, mais peut-on éviter de porter un jugement, c'est-à-dire d'apprécier en termes de bien et de mal, d'opportun ou d'inopportun, de juste ou d'injuste, un certain nombre d'actes que nous estimons violents. Et si l'on veut agir contre les violences, encore faut-il être capable de juger, c'est-à-dire effectivement de distinguer un bien d'un mal. Le jugement n'étant pas d'ailleurs nécessairement une condamnation des personnes, mais une prononciation de l'inacceptable et une tentative pour faire reculer cet inacceptable. Alors je voudrais dans une première partie énoncer quelques difficultés, quelques réticences devant le fait de devoir juger. J'essaierai ensuite de donner une approche de ce qu'il en est de la violence. Et dans un troisième point, j'essaierai de montrer que, en effet, on ne peut pas s'empêcher de juger si l'on veut agir, c'est-à-dire faire reculer les violences. Alors, nous avons beaucoup de réticences, effectivement, à juger la violence. D'abord, je dirais parce que nous sommes dans des sociétés de tolérance. Il ne faut pas juger, c'est très mauvais, on ne doit pas condamner, tous les comportements sont acceptables. Et juger paraît donc quelque chose de banni. Mais je voudrais, plutôt que d'insister sur ce lieu commun, me pencher du côté des sciences actuelles, des sciences naturelles et des sciences humaines. En gros, on nous dit que derrière la violence d'un pédophile, derrière la violence d'un criminel, il y a des causes ou des raisons contre lesquelles on peut en effet agir, en neurobiologie, en neurophysiologie, en psychiatrie, et par conséquent, au lieu de s'indigner en proposant des condamnations morales, mieux vaut traiter les gens. Il est inutile de juger, il faut regarder au cas par cas et adapter les thérapeutiques qui s'imposent pour faire disparaître la violence. On a donc des modes opératoires qui seraient infiniment plus efficaces et qui effectivement le sont que la morale. Le risque, par parenthèse, c'est évidemment de diluer la responsabilité ou de l'éteindre, ou de traiter l'homme comme un cas pathologique qu'on pourrait soigner, qu'on pourrait traiter, au fond, une sorte d'animal malade, et ceci étant dit avec souvent les meilleures intentions, avec le risque aussi, qui n'est pas minime, d'une manipulation au nom des sciences des individus, si l'on sait sur quel gène, sur quel neurone, sur quelle partie du cerveau on peut agir, alors pourquoi ne pas prendre les devants et déjà prédéterminer, ou en tout cas manipuler la personne. Autrement dit, risque sous des volontés très bonnes et très réelles de traitements qui vont à l'encontre de la dignité de la personne et de son respect. Et on voit très bien que dans ce climat, la difficulté à juger se renforce. On rejoint ce que je disais tout à l'heure en commençant sans insister. C'est une affaire, ça te regarde, à toi de voir. Chacun défendant finalement ce que certains appellent la liberté négative. Alors je n'insiste pas davantage sur cette première raison, difficulté à juger, elle est bien connue. Je voudrais en ajouter une autre, c'est que la violence est en réalité quelque chose de fort complexe et d'irrationnel. La mise en garde que je viens de faire trop rapidement concernant les sciences nous alerte sur la complexité des actions humaines. Eh bien, évidemment, le cerveau joue son rôle, mais non moins le milieu culturel, l'éducation, le milieu social, le rôle de l'inconscient. Et par conséquent, devant cette multiplicité de responsabilités ou de déterminismes, on est tenté, en effet, à nouveau de baisser les bras et, en effet, de juger comme illusoire la tentation de savoir. De savoir parce que tout le savoir réduit la complexité des choses. Alors, on pourrait dire que, effectivement, bien des problèmes que nous voyons aujourd'hui ont des racines extrêmement lointaines. Ce qui se passe sans doute au Proche-Orient aujourd'hui, ou les réactions de peuples arabes, ont des racines lointaines dans le sentiment d'avoir été dominé, d'avoir été exploité, d'avoir été sous l'emprise de l'Occident, et sans doute un anti-occidentalisme assez profond a-t-il des racines extrêmement lointaines. Et donc, comment juger et apprécier ce qu'il en est? Pensons à la lutte, à la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie, où tout d'un coup, on a vu revenir les anciens fantasmes concernant, ou réalités concernant la domination musulmane. Alors, on pourrait dire la même chose, les violences dans les familles, d'où viennent-elles? Chacun sait qu'au moment d'un héritage, au moment de partager ou de léguer l'armoire de la grand-mère, eh bien, de vieux conflits enterrés, des vieux conflits qui peuvent revenir de l'enfance, ressurgissent. Comment les traiter? Donc cela veut dire que on en viendrait presque à justifier la formule des anciens, nul ne fait le mal volontairement. Il y a tellement de causes, tellement de conditionnements, qu'à nouveau, on ne peut pas juger. Ma troisième difficulté, c'est que précisément, la violence n'est pas seulement quelque chose d'irrationnel et de complexe, elle est aussi insaisissable. Et je crois que c'est un trait tout à fait caractéristique et fondamental pour notre réflexion. La violence n'est jamais cernable, circonscrite, elle est par nature multiforme et imprévisible. Comme je le disais dans l'introduction, elle prend des formes nouvelles. Évidemment, dans l'Antiquité, on ne pouvait pas bombarder les tours de New York, d'abord parce qu'il n'y en avait pas, mais surtout parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de le faire. Les génocides de masse n'étaient sans doute pas possibles parce qu'on a des moyens que l'on n'avait pas ailleurs. Et donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que si la violence est une réalité insaisissable, elle n'est pas liée à quelque institution ou à quelque structure que ce soit, qui, en quelque sorte, par nature, serait porteuse de la violence. Elle peut ressurgir, cette violence, à tout moment, dans tous les rapports humains, à propos de toute relation humaine, et elle peut être portée par toute institution. Aucune institution n'est jamais exempte de violence. Et je crois qu'il y a une illusion tout à fait fondamentale dans la volonté de situer la violence, c'est-à-dire de lui trouver une cause, avec le présupposé que s'il y avait une cause, on pourrait toucher la cause et donc supprimer la violence. On pourrait dire que c'était la grande illusion marxiste de croire que la source de toutes les violences humaines venait des rapports économiques. Bien sûr que les rapports économiques peuvent engendrer de grandes violences, mais ils ne sont pas les seuls. L'État lui-même, l'État marxiste, l'État prolétarien, peut organiser des famines, comme Staline l'a fait en Ukraine, peut organiser des camps de concentration. Les banques, qui paraissent des institutions tout à fait utiles pour placer notre argent, nous avons vu ce que ça donne en 2008, c'est-à-dire que des traders, derrière leurs machines, très tranquillement, sont capables de déstabiliser des économies entières et de ruiner des millions de personnes. La religion elle-même n'échappe pas, et là encore, il faudrait insister sur le cliché selon lequel c'est le monothéisme qui est la cause de tous nos maux. Le polythéisme, lui, comme disait feu M. Hessel, est au contraire courtois, parlementaire, comme si on n'avait pas lu ce qui est écrit chez Eschyle ou chez Sophocle. Donc l'État lui-même, les rapports économiques, la nation, la relation sexuelle peut être elle-même source de violence, nous le savons aussi. Alors je dirais que voilà une des thèses que je voudrais poser dans cette petite intervention, c'est qu'aucune institution religieuse, étatique, familiale, économique, n'est indemne de la possibilité de l'oppression. Aucune, par conséquent, ne peut être vue comme la cause. Un danger d'estimer qu'on a trouvé une cause, c'est que, évidemment, si l'on a pu trouver un bouc émissaire, si c'est le monothéisme qui est la cause des violences, ben, il suffit de couper la tête des croyants et tout ira mieux. Si c'est les rapports économiques privés qui sont la source des violences, ben, il faut collectiviser et tout ira mieux. Alors, toutes les révolutions rentrent dans ce jeu, plus ou moins, de croire qu'elles ont trouvé le bouc émissaire, la cause que l'on va pouvoir éradiquer. C'est le vieux programme voltairien, écraser l'infâme. Ben, vous pouvez écraser l'infâme, mais l'infâme est-il vraiment l'infâme? Et surtout, le problème, c'est qu'en voulant écraser l'infâme, c'est-à-dire en voulant supprimer la violence, on va la multiplier. Nous avons connu ça dans la Révolution française, la terreur, on veut éliminer les suspects, mais il y en a toujours d'autres. Et pour éliminer les suspects, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, couper quelques têtes, quelques-unes, pas trop. C'est-à-dire, pour supprimer la violence, on multiplie la violence. D'où la question de savoir, est-ce que la violence est quelque chose d'insaisissable, apte à s'attacher à toute institution, même la plus innocente, au comportement le plus simple, voire même apparemment le plus justifié. Alors si ceci est vrai, et je crois que c'est vrai, cela devrait nous éviter le manichéisme. Il y a d'un côté le camp des bons, qui ne sont que bons, comme disait Nietzsche, et il y a le camp des mauvais, qui ne sont que mauvais. Évidemment, on est toujours dans le camp des bons, mais ça veut dire qu'à force de développer ce discours, on se croit justifié, puisqu'on est du côté des bons, pensez à M. Bush, d'éliminer le camp du mal, ou du moins de le maltraiter. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième partie. La violence est en réalité insaisissable, multiforme. Peut-on quand même en dire quelque chose? Je crois qu'il est difficile, en effet, de la définir. Parce que définir, c'est cerner, donner des limites, encadrer, catégoriser. Et la violence, nous le savons que trop, prend et prendra des formes toujours nouvelles. Cependant, il est possible, me semble-t-il, de dire une chose ou deux. D'abord, il me semble qu'il ne faut pas négliger nos intuitions devant ce qu'est le mal. Avant même de définir ce qu'est le mal, le sens commun sait bien ce qu'est le mal, sent ce qu'est le mal. Avant même toutes les définitions, les théories, les discours, les philosophies, les idéologies, nous savons bien ce qu'est le mal. Et on pourrait dire que le mal ou la violence, je mets les deux termes équivalents, c'est tout ce qui détruit, ce qui brise, ce qui casse, ce qui anéantit, ce qui dévaste, tout ce qui paralyse et bride les puissances créatrices des hommes, c'est ce qui avilit, ce qui nous avilit nous-mêmes, individuellement ou collectivement. Alors bien entendu, cette intuition que nous avons devant un violeur, devant un pédophile, elle demande à ne pas rester vague, à être davantage formulée, et au fond, c'est ce que nous faisons dans nos jugements moraux. Et nos jugements moraux sont rarement des jugements nets. Nous sommes toujours devant la nécessité de pondérer nos jugements. Et on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que le pédophile fait du mal, qu'il est condamnable, et en même temps, ce n'est pas le diable incarné. Il y a sans doute dans son passé des raisons qui expliquent qu'il a fait cela. Alors voilà, on est capable de juger, pas nécessairement de condamner et d'apprécier. Donc, je crois qu'il y a en effet une place pour nos intuitions, mais que celles-ci doivent être éclairées, éclairées par l'expérience du passé, réfléchies et toujours à réfléchir. Alors, je dirais volontiers que, en m'appuyant sur un philosophe peu connu, qui est Eric Weil, on pourrait dire que la violence, sans chercher à la définir, c'est ce qui s'oppose à la raison. C'est ce qui s'oppose au discours raisonnable. La violence, elle est l'autre de la raison. Ce que la raison ne pourra jamais vaincre, ce qui la nie, est justement ce qui, par principe, échappe à tout discours, mais qu'on ne rencontre jamais à visage nu. Et je crois que c'est une des grandes idées d'Eric Weil, on ne la rencontre que dans des attitudes de violence. Et par conséquent, nous ne pouvons sans doute pas juger la violence, sinon en tenant ce propos très général que c'est un mal, nous ne jugeons que des violences liées à des comportements, à des pratiques déraisonnables, à des pratiques enfermées sur elles-mêmes, le nationalisme, l'exaltation de la force, les fanatismes religieux ou politiques. Donc la violence est toujours ce qui est possible quand la raison déraisonne. Et c'est en ce sens qu'il y a toujours une place nécessaire à la critique de la raison. Je crois être dans le camp des bons, je crois que ma cause est juste, je crois que la démocratie, après tout, un pas mauvais système, est-ce une raison pour autant, pour l'imposer à d'autres, et pour croire que ceux qui ne la connaissent pas sont dans le mal? Évidemment non. Ce qui serait justement violence, c'est l'enfermement dans la certitude où je suis, de croire que je suis dans la vérité, dans le bien, dans le vrai, et que les autres, manichéisme, sont à nouveau dans le mal. Et donc je crois qu'il est quand même possible de donner des traits aux attitudes de violence qui sont celles qui cassent et qui avilissent. D'où ma troisième remarque, l'action est nécessaire, elle ne va pas sans le jugement pour essayer de s'en prendre aux racines, au pluriel, des violences. Alors je voudrais dire ici deux ou trois petites choses. D'abord, il est clair, me semble-t-il, que si nous sommes des êtres raisonnables, et j'espère que nous le sommes tous plus ou moins, nous devons évidemment choisir des comportements raisonnables contre la violence. Et ce choix devrait aller de soi. On ne peut pas vouloir, à moins d'être un barbare, et je le dirai en conclusion, il y a toujours un barbare en nous qui sommeille, on ne peut pas vouloir la violence comme telle. Mais ce refus de la violence n'est pas un caprice, ni du moralisme déplacé, ni de la sentimentalité, ni de l'émotivité. Le refus de la violence doit être un choix d'humanité partagé. Refuser la violence et juger que toute forme de violence est incompatible avec le vivre ensemble, avec l'humanité en chaque être humain et avec l'humanité partagée, cela peut et doit s'appuyer sur des convictions religieuses, philosophiques, anthropologiques, qui, en fin de compte, reposent sur ce que la philosophe Hannah Arendt appelait la pluralité humaine. On pourrait dire que la violence est ce qui essaie de dissoudre la pluralité humaine. J'entendais tout à l'heure sur une chaîne pas très bien à côté, qui est Al Jazeera, expliquait qu'à propos de l'attentat de Nairobi, ce que redoutent les autorités au Kenya, c'est qu'on divise la société kenyane. C'est que les chrétiens se heurtent aux musulmans, que les musulmans écrasent les chrétiens, et ainsi de suite. Voilà, la violence est ce qui étouffe la pluralité humaine. Or, cette pluralité humaine, pour la vouloir, il faut qu'on l'appuie sur des convictions. ce qui suppose évidemment une éducation aux valeurs communes, un enracinement, qui va permettre la vigilance, je vais y revenir dans un instant, la vigilance comme vertu essentielle, parce que la violence, sauf les cas extrêmes que j'ai cités tout à l'heure, le septembre 2001, le pédophile, elle se cache quelquefois sous les meilleures intentions. Les traditions spirituelles nous apprennent que sous les anges de lumière se cachent les anges de ténèbres. Donc sous la volonté évidemment tout à fait sensée de vouloir répandre la démocratie à travers le monde, on va provoquer des catastrophes en certains pays. Donc la vigilance à nouveau consiste à dire attention, je peux croire que ce que je fais est parfaitement bon et juste et fondé sur ma religion, sur mes convictions politiques. Attention, est-ce que ce qui me paraît une lumière éblouissante n'est pas l'ange de ténèbres, n'est pas justement le mal ? Or, il me semble que, justement, au-delà du sentiment immédiat, une culture humaine, une culture humaniste, une culture religieuse, nous fait découvrir que le sens de l'homme en communauté, non pas un individu qui défend son pré carré sous le nom de liberté négative, mais un individu qui a des liens. Et la violence, comme je le disais tout à l'heure, elle s'en prend à ses liens. Elle dissout les liens dans un couple, mais au niveau international aussi bien. Et l'humanité, ça n'est pas seulement un ensemble de relations humaines, c'est aussi un ensemble de relations avec le cosmos et la nature. Et donc je crois qu'il est très important de s'apercevoir que la violence peut toucher chacun de ces éléments. Par exemple, des monuments culturels, historiques, peuvent nous paraître des objets. Les fameuses statues de Bouddha en Afghanistan qui ont été détruites par les talibans. On pourrait dire, oh, bon, après tout, c'est des pierres qu'on a démolies. Mais oui, mais c'est un capital d'humanité. Les fameux manuscrits de Tombouctou qui ont failli disparaître l'an dernier. On peut dire, le manuscrit, on s'en fiche, on n'est pas des anthropologues, on n'est pas des... Eh bien non, c'est une trace d'humanité, c'est quelque chose de nous-mêmes qui serait détruit. Je trouve intéressant les fameuses émeutes sur la place Taksim. C'était une question d'arbres et de parcs. Bon, pas tout, pour un parc, on peut peut-être s'en passer. Ah oui, mais à travers un parc, c'est un vivre ensemble qui est atteint. C'est une ville qui va devenir de béton. Donc, on peut dire, quelle violence fait-on aux gens d'Istanbul ? Ben si, on fait une violence en déracinant leurs arbres. Et ça, je crois que c'est très important, parce que ça nous montre effectivement que la violence peut s'en prendre aussi à l'environnement. Les paysages dévastés par l'industrialisation, c'est des violences qui sont faites pas seulement à la nature, mais à l'homme lui-même. Et donc, je crois qu'il est très... Alors, on pourrait aussi parler, évidemment, des animaux. Donc, on peut juger que de tels actes sont condamnables sur un fond de sens de l'humain, et, me semble-t-il, sans ce sens de l'humain qu'on trouve dans la philosophie, dans la métaphysique ou dans la religion, on risque de passer à côté de la violence elle-même, et de ce qu'il en est de la violence. Alors, je pensais l'autre jour aussi à ces braves femmes qui vont se balader le torse nu en Tunisie pour faire avancer la cause de la femme, voilà, qui est une cause incontestable, la cause de la femme. Ben oui, seulement vous êtes dans un pays musulman en Tunisie. Votre geste, qui vous paraît tout à fait normal et bien fondé, il risque d'être entendu comme un geste de violence à l'égard de traditions à lesquelles les gens tiennent. Et en plus, vous risquez de faire entendre aux islamistes que voilà la démocratie. L'Occident sait mettre les femmes à poil sur les places. Autrement dit, en voulant détruire la violence qui est faite aux femmes, je suis parfaitement d'accord dans beaucoup de pays musulmans, on va entretenir une autre violence. Et c'est pourquoi il est très dangereux, en effet, de s'appuyer sur une cause que l'on croit avoir trouvée pour faire reculer la violence, cela me paraît important. Donc elle est diffuse, et par conséquent aussi, il faut être vigilant, et cette vigilance, c'est le point sur lequel je veux insister, elle suppose qu'on ait un sens de l'homme, un sens des relations humaines, un sens de ce qu'il en est de notre commune humanité. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes liés les uns aux autres par toutes espèces de choses. Le langage, ouais, par exemple, ben nous sommes en train de parler. Des violences terribles peuvent venir de la façon de méconnaître le langage, de le maltraiter. On peut tuer quelqu'un par le langage. Et je redoute beaucoup aujourd'hui les 9 langues d'un certain nombre de générations. et qui, vous l'avez entendu comme moi dans le métro, tiennent un jargon que nous ne sommes même plus capables de comprendre. Voilà des violences qui sont faites et qui se font à eux-mêmes d'ailleurs, parce que ça coupe la communication. Bon, ça c'est un premier point que, sur lequel je voulais insister. Je voudrais aussi dire qu'il est possible de juger et de faire reculer la violence par des moyens institutionnels comme le droit international. Alors il y aurait ici l'objet de toute une conférence. Je crois que nous rendons compte de toutes les ambiguïtés du droit international et de sa nécessité. Ambiguïté, alors le cas de la Syrie évidemment saute aux yeux. Nous sommes paralysés pour des tas de raisons, en particulier pas seulement parce que certains pays bloquent des décisions, mais parce que la Syrie est un bourbier dans lequel personne n'ose mettre les pieds, parce que c'est tellement complexe, alaouites, kurdes, sunnites, etc., chrétiens, athées, et tout ça. Bon, comment traiter la question? Donc on peut très bien dire en effet qu'il y a là quelque chose de très difficile, et en même temps je crois de très nécessaire. Je disais tout à l'heure, la violence a toujours existé, elle existera toujours. Il y a tout de même beaucoup d'espoir dans le fait que notre humanité s'est entendue, s'entend plus ou moins bien, pour la mise en place d'un droit international avec des institutions, conseil de sécurité. Sécurité, c'est bien contre la violence de l'insécurité. Et il me semble qu'il y a là quelque chose que l'on ne doit pas mépriser, comme on le fait souvent aujourd'hui, en disant, bah, tout ça, on voit bien, c'est de la parlotte, c'est des diplomates qui discutent, ça ne sert finalement à rien. Je crois que ce n'est pas vrai. Évidemment, nous sommes conscients à nouveau de la difficulté de la mise en place de ces institutions, mais je pense en particulier que l'institution récente des tribunaux internationaux est quelque chose de fondamental, et je n'hésiterai pas à dire, il s'agit d'un progrès de l'humanité. Alors on peut énoncer à l'aise tous les défauts de ce genre de tribunaux, il est cependant une proclamation que nous nous tenons à nous-mêmes, selon laquelle, non, nous n'acceptons plus que des tyrans dominent sur des peuples, affament leurs peuples, et nous essayons de faire en sorte que nous les jugions, et par conséquent que nous multiplions les sanctions. Alors, bien entendu, une des grandes difficultés de ces tribunaux, me semble-t-il, avec leurs tribus hésitants, c'est que qui juge et qui sera jugé? Je doute fort pour ma part que Bush Junior soit un jour traduit à La Haye. Je doute beaucoup que Vladimir Poutine, après tout ce qu'il a fait en Tchétchénie et ailleurs, soit jamais à la cour de La Haye. Alors on va peut-être trouver un petit roi nègre qu'on va faire défiler, n'est-ce pas, à La Haye, le condamné. Mais les gros poissons. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est déjà un début. Et c'est un signe que l'humanité, dans sa globalité, si ça veut dire quelque chose, elle est quand même capable de s'insurger contre la violence. Alors il y a beaucoup à faire au Cambodge. On a fait des procès qui sont finalement des comédies. Monsieur Mugabe règne toujours sur son pays, vient d'être réélu triomphalement, il affame son peuple. Bon, c'est un fait que la violence est toujours là sous des formes nouvelles. Mais nous essayons, à travers le droit international et un certain nombre d'institutions, sinon de faire reculer la violence, du moins de dire qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas et que par conséquent nous voulons plus ou moins éradiquer. Et il me semble qu'il y a là un geste symbolique tout à fait important. Alors bien entendu, et c'est ma troisième remarque, juger est certainement important, juger que Staline était un infâme individu qui a laisser mourir de faim les Ukrainiens et emprisonner des millions de gens, Mao du même type. Le jugement s'impose, nous ne pouvons pas dire au bon après tout, on s'en fiche, les Ukrainiens, les Chinois, ils se renouvelleront de toute façon, ça pullule, donc le jugement est bien entendu nécessaire, mais insuffisant. Car les violences peuvent avoir des raisons et des racines lointaines, et il me semble que il faut s'en prendre à ces racines par anticipation. Et il me semble qu'une des nécessités, ce sont les actions préventives ou les actions réparatrices. Je voudrais m'appuyer ici sur Machiavel, qui est en odeur de sainteté en général. Machiavel demande au prince d'anticiper les catastrophes pour les dissoudre, pour les empêcher de se développer. Et il me semble que le rôle des hommes politiques, mais peut-être des économistes, c'est pas d'attendre que la catastrophe arrive pour dire on va mobiliser le SAMU, c'est d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir une vigilance suffisante, d'analyser là où il y a simplement quelques petits craquements dans la société, pas encore l'émeute dans la rue, pour pouvoir tenter de faire face. Et je crois qu'en effet, il y a des sources de conflits que l'on peut surmonter par ce que Machiavel appelait la virtu. Il me semble que là aussi, la vigilance est tout à fait importante. Il a fallu que nous intervenions, à tort ou à raison, au Mali. Mais s'il a fallu intervenir au Mali, c'est parce que l'État malien, pour autant qu'il en existait un, a négligé gravement le sort des populations touareg du Nord. Et ça, ça fait des dizaines d'années. Alors tout d'un coup, ça éclate. Ça éclatera encore, si l'on ne fait rien pour ça. Et on voit très bien, en effet, que l'inexistence des États, disons l'ancien Congo belge, la République démocratique du Congo, l'absence de l'État fait que se développe toute espèce de corruption, de trafic, de drogue et de diamants. Sans parler de la corruption des élites. Là encore, il y a sans doute une éducation à faire, en tout cas ne pas fermer les yeux. Quand on nous dit aujourd'hui il ne faut surtout pas juger, il n'y a plus de vérité dans une société postmoderne. Ah bon, il n'y a plus de vérité, on ne peut pas juger. Mais quand un ministre détourne de l'argent ou la place à Singapour, ment à l'Assemblée parlementaire et au président de la République, tout le monde trouve ça très bien. Mais non, nous disons c'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il aurait fallu sans doute que nous ayons des élites plus conscientes de leurs responsabilités et qu'en tout cas, nous-mêmes, comme citoyens, nous soyons nous-mêmes plus vigilants. Alors, je voudrais conclure là-dessus. Comme vous le voyez, à mon avis, la violence des hommes est indéracinable. Il ne faut pas rêver de l'éradiquer. Car quand on rêve de l'éradiquer, on ne fait souvent que multiplier la violence. Ce qu'il faut tenter de faire, d'abord en nous-mêmes, dans nos propres familles, dans notre commune, dans notre pays, c'est d'être conscient qu'elle est toujours là, tapie, et tenter de la canaliser, de ne pas entretenir les causes de cette violence, qui peut être l'inculture, la mauvaise éducation, l'absence de sens religieux, qui fera qu'on va dire le musulman c'est nécessairement un Ben Laden, ou le catholique c'est nécessairement l'inquisition. Donc voilà, tout ce travail est à faire pour non pas rêver qu'on va être des agneaux les uns à l'égard des autres. Je crois qu'en effet, les sagesses religieuses en particulier, mais philosophiques, nous apprennent que tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, le meilleur est l'ennemi du bien. Et donc vouloir éradiquer totalement la violence, cela risque de nous conduire à la barbarie, ce que nous savons malheureusement être possible. Alors je conclus tout à fait, la violence, elle n'est pas ici, elle n'est pas là. Elle est en chacun de nous et en tous. Et je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que on n'a jamais fini de la dominer. Mon propos serait mal entendu si vous pensiez que je prêche une résignation. Il faut en effet lutter contre la violence d'abord en soi, violence de nos paroles, violence de nos attitudes, mesquinerie, fermeture d'esprit. Mais il faut aussi lutter contre elle partout où elle peut se manifester, avec ce sens de la vigilance qui fait que il faut tenter d'éteindre l'incendie avant qu'il ne se soit vraiment déclaré. Et donc, me semble-t-il, on ne peut lutter contre la violence que si l'on a un minimum de conscience de ce qu'il en est de l'homme. Donc, sur des bases de convictions philosophiques, religieuses, métaphysiques, du respect de la pluralité humaine. Je reviens sur ce point. Donc, du respect de la valeur de tous, de notre vie commune, et en particulier des plus faibles et des plus silencieux, car la violence tombe souvent sur ceux qui ne peuvent pas prendre la parole et qui sont écrasés par les plus forts. En tout cas, s'il y avait un message à faire passer, je dirais ce message est le suivant, c'est que quand les hommes rêvent de créer le paradis sur terre, c'est-à-dire d'éradiquer toutes sortes de violences, en réalité, c'est l'enfer qu'ils établissent. Merci beaucoup.
Merci Paul Valadier d'avoir été aussi scrupuleusement respectueux du temps de parole. Donc je passe la parole maintenant à Olivier Abel pour nous parler de violence et humiliation. À vous, Olivier.
Merci Yves. Merci pour cette invitation. Merci pour cette impressionnante 1749e conférence. C'est extraordinaire. À 700, ah bon, d'accord. C'est déjà pas mal. Et oui, pour le séminaire aussi qui l'a précédé, dans lequel on a su partager toutes sortes de points de vue, et dont beaucoup sont repris dans le cycle actuel. Donc toute une gamme depuis des phénomènes presque biologiques jusqu'à la philosophie politique, les violences à enfants, les drames familiaux, les violences de rue, les violences ethniques, les violences des mafias et les guérillas terroristes, les violences étatiques et les opérations de nettoyage, de gendarmerie, avec une supériorité technologique parfois écrasante. Bon, c'est des situations incroyablement différentes. Je voudrais faire donc un cas très particulier, je pense que ça a été fait, de toutes les violences légales, l'appareil juridique et pénitentiaire, avec le droit de punir, l'appareil militaire. Bref, la violence prend des significations extrêmement variées entre les deux limites de la violence presque intime, de la violence contre soi. Moi, je crois que le suicide, la drogue, les excès en tout genre attestent que cette violence-là est au fond la plus répandue, est très répandue, la violence contre soi. Et puis la violence, de l'autre côté, massivement organisée, méthodique, la violence guerrière d'État à État. Et qu'on a deux mots qui viennent du latin, hostilité et inimitié, qui montre qu'il faut distinguer l'antagonisme qui nous affronte à l'ennemi lointain, très trop dissemblable, l'étranger, et au contraire la haine du proche avec lequel on se déchire, justement, peut-être parce qu'il est trop proche, parce qu'on est, trop ressemblant. Et il est important de distinguer entre ces violences, on va dire, tragiques, domestiques, celles du dedans de la maison, dont parlent justement les tragiques grecs, et les violences du dehors liées à l'étranger, aux espaces de la mobilité hostile, anonyme, etc. Voilà. Eh bien, que vient faire l'humiliation dans ce tableau? C'est juste un petit angle supplémentaire, encore un autre. Je vais développer ça sous quatre petits moments. Importance de l'humiliation, profondeur de l'humiliation, amplitude de l'humiliation. Et je terminerai par quelques réflexions sur l'énigme de l'humiliation. Il me semble que l'humiliation accompagne toutes ces formes de violence comme son ombre, comme une ombre, qui va plus loin encore, dans toutes les directions, avec des causes, en effet, anciennes, des conséquences lointaines aussi, longtemps invisibles. Il y a donc une très grande amplitude des phénomènes de l'humiliation. Et mon hypothèse, c'est que l'humiliation est souvent pire que la violence physique, que l'humiliation engendre et prépare les violences futures. On ne sait pas ce que fait l'humiliation dans la vie des individus, comme dans celle des peuples. Ces effets sont souvent plus profonds, plus multiformes encore que ceux de la violence. Or, les humiliés, à leur tour, risquent d'être humiliants. Bon, il y a alors une sorte de contamination d'humiliation qui touche peu à peu tous les tableaux de la vie des individus et des sociétés. Je pourrais dire que, en ce sens-là, l'humiliation, c'est une sorte de violence différée, de violence potentielle, subliminale. On reviendra sur ce point, ce côté violence différée. Sur le versant des rapports entre les peuples, ce sont souvent les humiliations qui engrossent, si je peux dire, les plus inexpiables des guerres de demain. C'est frappant si on prend le cas du traité de Versailles en 1918, par lequel la France a profité de sa victoire pour écraser l'Allemagne de façon humiliante, avec des conséquences qu'on en a vues. C'est peut-être le cas dans toutes les relations internationales, lorsque les vainqueurs, dans un conflit, croient pouvoir utiliser leurs forces comme s'ils allaient toujours être les plus forts. Au-delà des injustices que cela conduit à commettre, c'est une grande imprudence. Il faudrait toujours faire en sorte d'humilier le moins possible, de vaincre de manière à ce que l'autre ne perde pas complètement la face et puisse rester un ennemi honorable, sinon un bon perdant. Sinon pas sur le versant des rapports interpersonnels, l'humiliation est vécue comme une violence morale qui peut redoubler un acte de violence, certes, mais qui peut aussi être simplement verbale, ou bien dû à une posture, à une mise en scène, lorsqu'on utilise son pouvoir contre l'autre sans lui laisser aucun contre-pouvoir. Ce n'est pas seulement dans les violences brutales, discontinues, que ça se produit, ou il y a des violences lentes générées par les situations, mais c'est surtout que nous accordons trop d'importance à l'injustice et à la violence par rapport à cette humiliation intime d'être sans parole, impuissant, défait dans son estime de soi. Et les gens peuvent être ainsi dépossédés de leur propre crédit, de leur évaluation, de leur confiance. Alors ils sont prêts à se vouer à tout ce qui leur offrira un peu de respect. Ils sont prêts à tous les conformismes, mais à leur tour à toutes les violences aussi. Sur ces premières esquisses de la question, on mesure combien l'humiliation est en même temps ce qui pénètre au plus profond de l'intimité et ce qui peut, de proche en proche, toucher toutes les sphères, tous les registres de la reconnaissance. C'est ce que j'appelle la profondeur de l'humiliation et son amplitude. Dans mon propos, je propose d'abord de faire un premier tour pour mesurer la manière dont l'humiliation atteint les deux racines de la dignité humaine, celle de l'estime de soi et celle du respect d'autrui. L'estime de soi indiquant les figures de l'estime de l'autre comme d'autres moi-même, comme d'autres soi-même, et le respect d'autrui allant jusqu'au respect de soi-même comme un autre. Il faut donc définir et comprendre le mécanisme de l'humiliation dans cette atteinte avant de la condamner, de la juger et de la combattre. Puis je ferai ensuite un deuxième tour sur les mêmes thèmes, mais au travers d'une réflexion à propos des institutions de la société. Nos institutions traitent-elles les gens avec dignité ? Je m'appuierai notamment sur l'ouvrage de Avishai Margalit, La société décente, qui pose cette question, qu'est-ce qu'une société décente ? Son idée, c'est que si nous ne parvenons pas à constituer une société juste, il faudrait au moins tenter de mettre en œuvre une société la moins humiliante possible, et une société dont les institutions ne seraient pas humiliantes. Comment faire donc, au moins les institutions, comment faire donc pour que les institutions ne soient pas humiliantes et soutiennent ainsi l'estime et le respect de la dignité ? Je commence par la profondeur de l'humiliation, là, qui n'est pas au niveau de l'institution, mais au niveau des relations de chacun de nous. Qu'est-ce donc qu'humilier ? C'est d'abord traiter quelqu'un comme une chose maniable, ou comme un numéro anonyme. On ne le voit pas, on ne voit pas sa ressemblance avec nous, ça devient un objet. Mais cela peut être aussi bien l'inverse, de traiter l'autre comme tellement proche, tellement acquis comme un prolongement de moi-même, qu'on n'en voit plus la dissemblance, qu'on n'en voit plus l'altérité. Dans les familles, ça arrive, ce genre de situation aussi bien. Et donc, par exemple, les esclaves, autrefois, c'était des êtres paradoxaux, en même temps maniables comme des choses, et familiers comme si c'était vraiment des membres de nous-mêmes. Ils étaient dressés à ne pas regarder leurs maîtres, et les maîtres pouvaient agir devant leurs esclaves ou leurs domestiques comme si ceux-ci ne pouvaient pas les voir. On pourrait dire que la dialectique du maître et de l'esclave, chez Hegel, est une analyse de la manière de préférer être humilié plutôt que de subir la violence et de mourir, et que l'humiliation a quelque chose à voir avec ce patient travail du négatif, cette aliénation que Nietzsche, au contraire, entre autres, dénonce. Donc on peut dire d'abord que l'humiliation est une atteinte à l'estime de soi. On se moque de quelqu'un pour le renvoyer dans son coin, on lui fait honte de son désir, de ce qu'il est, de son expression, ce qui est le fond de la honte. On fait honte aux gens de leur appartenance, de leur identité, de leur forme de vie. Des groupes ont ainsi été rendus vulnérables parce que leur forme d'expression a été rejetée ou est devenue la cible d'évaluations perpétuellement négatives. Selon les contextes, cela a pu être le cas de minorités religieuses, ethniques, sexuelles, etc. Mais ça peut s'inverser. Les minorités, les majorités d'hier peuvent devenir des minorités. C'est jamais fini, ce processus de bouc émissaire dont parlait Paul tout à l'heure. Mais ce qui me semble le plus grave en ce sens, dans l'humiliation, c'est la manière dont on peut amener quelqu'un à perdre sa propre estime de soi, c'est-à-dire à se défaire lui-même de sa dignité, de son estime de soi. C'est-à-dire on ne lui dit pas, on l'amène à lui-même, de lui-même, en quelque sorte se mettre de côté. Se défaire de sa dignité, de son estime, pour survivre, pour rester inclus dans le groupe, etc. Deuxième côté, on peut dire par ailleurs que l'humiliation est une atteinte au respect de soi, à la décence, à la vie privée. La société civilisée a érigé des espaces d'intimité à l'abri des médisances, des rumeurs, des ragots, d'où l'importance de la ville, d'ailleurs, comme lieu où la médisance disparaît grâce à un minimum d'anonymat, d'incognito. Il y a là une libération de la pression humiliante de devoir sans cesse pouvoir être comparé, de risquer sans cesse d'être montré du doigt. Dans la société civilisée, nous pouvons tous être des veuves et des orphelins, des étrangers de passage, des êtres vulnérables, etc., sans que cela se sache, à une distance respectueuse. Mais on peut toujours basculer dans une société de surveillance où cette séparation entre la vie publique et la vie privée est délibérément abattue, et c'est sans doute une des caractéristiques des sociétés totalitaires. Et donc si je rassemble ces deux morceaux, l'humiliation atteint donc les deux racines de la dignité humaine, celle de l'estime de soi et celle du respect d'autrui. Bernard Williams, un philosophe américain de la morale, affirme qu'il y a des émotions rouges, celles qui apparaissent sous le regard d'autrui, et des émotions blanches, celles qui se condensent sous le regard intérieur de soi-même. Ainsi, la honte est une émotion rouge, la culpabilité une émotion blanche. Mais l'humiliation serait comme une émotion rouge-blanche. Si vous voulez, l'humiliation touche à la fois l'estime propre de quelqu'un à ses propres yeux et le respect que les autres ont de lui. Au fond, donc, l'humiliation fait honte, elle cache ce qui aurait voulu se montrer, et elle le refoule, elle s'en moque, et au contraire, elle montre ce qui voudrait se cacher, se retirer. Elle atteint à la fois la dignité comme estime et faculté de se montrer, et la dignité comme respect et faculté de se retirer. Autre chose est la faculté vitale de se montrer, de montrer de quoi l'on est capable. Autre chose, le fait humiliant d'être montré malgré soi, coincé dans une sorte de caricature de soi-même. Autre chose, la faculté non moins vitale de pouvoir se retirer. Autre chose, le fait humiliant d'être malgré soi exclu du jeu, inemployable, condamné à l'invisibilité. Il n'y a de communauté humaine que si ce sont les mêmes qui peuvent entrer et sortir de l'échange avec des libertés et des obligations comparables, donc les mêmes qui peuvent se connecter ou se déconnecter, se montrer ou se retirer, chacun selon son rythme. On y reviendra. Mon troisième moment, c'est donc amplitude de l'humiliation. Prenons maintenant les choses horizontalement. J'ai cherché la profondeur, si vous voulez, mais je cherche horizontalement. L'humiliation prend des formes diverses en touchant divers registres de la vie. Et c'est justement pourquoi une société pourrait être juste et équitable et demeurer très humiliante. Certes, il existe aussi une humiliation proprement économique, celle non pas d'être exploité et asservi, mais d'être inutile et superflu. Je pense que particulièrement dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, un homme qui ne travaille pas, il n'est plus rien, il n'a plus de qualité. C'est très humiliant. Mais il y a une humiliation plus politique, au sens élémentaire des rapports de force, non pas seulement d'être battu, mais d'être trop faible pour ne rien pouvoir contre le plus fort. C'était un philosophe de politique, François Tricot, qui travaillait sur Hobbes, qui estimait que Hobbes était trop optimiste en pensant que le plus faible avait toujours de quoi riposter contre le plus fort. De sorte que le fort a intérêt à faire attention aux faibles. Non, parfois les faibles sont vraiment entièrement désarmés. Ils sont désespérés, mais entièrement impuissants. Ils ne peuvent que ravaler leur rage. Et cela, ça a des conséquences futures très, très graves. Donc, voilà, lorsque quelqu'un utilise son pouvoir sans laisser à l'autre le moindre contre-pouvoir, il y a non seulement violence, mais humiliation. Donc il faut toujours laisser à l'autre un petit couteau, de quoi nous faire un peu mal si nous le faisons trop mal. C'était Simone Weil, la philosophe, qui écrivait « On est toujours barbare avec les faibles ». Elle n'écrit pas « Il ne faut pas être barbare avec les faibles ». Elle dit « On est toujours barbare avec les faibles ». Donc il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient trop faibles. Il faut armer un petit peu ses ennemis quand ils sont trop faibles. Et puis il y a une humiliation que je qualifierais, troisième registre, que je qualifierais de culturelle au sens très large, d'être discrédité dans sa propre parole, dans ses valeurs, dans ses attachements, bref, dans tout ce qui autorise ce que le philosophe américain Emerson appelait la confiance en soi. La confiance en soi, c'est-à-dire la capacité à apporter quelque chose de nouveau, la capacité à donner sens à ce que nous faisons. Voilà par exemple donc trois registres où l'humiliation peut se propager. Donc nous ne sommes plus ici seulement au plan des humiliations interpersonnelles, mais de la considération, je dirais, des grandes sphères de la société, des institutions, comme susceptibles elles-mêmes de devenir humiliantes, parfois sans le vouloir, ou bien comme capables, au contraire, de protéger, de faire écran à l'humiliation. Avishai Margalit, que je citais tout à l'heure, pose cette question dans son livre « La société décente », à partir de l'idée que, donc, si nous ne parvenons pas à constituer une société juste ou non violente, il faudrait donc déjà essayer de mettre en œuvre une société la moins humiliante possible. Qu'est-ce que serait que des institutions non humiliantes? Est-ce que nous pouvons proposer des tests? Je vais prendre le cas de l'hôpital, par exemple. Lorsqu'on vous prend en charge, sans rien vous dire de votre état, sans vous parler, sans vous demander votre sentiment. On pourrait prendre le cas de toutes les institutions chargées du traitement des étrangers, des sans-papiers, des immigrants, les guichets des frontières et des préfectures, la police, etc. Mais ce sont des questions en fait très compliquées, justement parce qu'on y a affaire à des personnes qui sont dans des états différents. Prenons l'exemple des institutions judiciaires pénales. Les châtiments sont une bonne pierre de touche pour une société décente. Peut-on punir sans humilier ? Respecter l'autre, c'est un peu vague. Par contre, ne pas humilier l'autre, ce serait peut-être une notion sur laquelle on pourrait se fonder pour établir des règles, des tests, qui auraient valeur d'avertissement au moins. Mais même là, les critères sont ambigus. On traitait jadis les appelés du service national beaucoup plus durement que certains détenus. Et pourtant, ils ne se sentaient pas forcément humiliés. Donc, il y a donc autre chose en cause que la dureté physique du traitement. Et longtemps, par exemple, il y a vraiment des changements de culture aussi. Longtemps, le travail a été quelque chose de perçu comme de servile, comme humiliant. Et c'est un des traits de la modernité, après la réforme, que d'avoir sans doute inversé, sans doute à l'excès, la valeur du travail et celle de la contemplation. On pourrait dire que si l'on est humilié sur un tableau, on prend sa revanche sur un autre. Et souvent, c'est ainsi que cela se passe. Mais l'humiliation aussi se propage. Une humiliation dans le monde de l'emploi peut avoir des répercussions sur la famille, sur la santé. Elle peut de proche en proche ainsi toucher toutes les sphères, tous les registres de la reconnaissance. C'est pourquoi il est tellement important de pluraliser les sphères de reconnaissance de manière à instituer des écrans, des séparations, de telle sorte que l'humiliation sur un tableau ne se propage pas presque immédiatement, de façon apparemment magique, sur tous les autres tableaux. Or, l'humiliation est difficile à contenir. Elle passe à la fois par-dessous et par-dessus ces séparations. La pluralité des sphères de reconnaissance demande ainsi qu'il n'y ait non pas un voile d'ignorance, comme le propose le philosophe américain de la justice John Rawls, mais plusieurs, pour que dans chaque sphère, la chance soit redonnée à chacun. Il faut donc instituer des procédures qui donnent à chacun toutes ses chances de montrer qui il est. Les institutions, l'école, la santé publique, les prisons même, par exemple, doivent à la fois arrêter, rompre les logiques de contamination et d'humiliation et redonner place, refaire crédit à chacun. Donc d'une part, il faut penser l'institution du respect dans la faculté donnée à chacun de résilier. Hein, on a une garantie contre toute humiliation quand les acteurs ont vraiment la faculté de dire « Stop, je mets les pouces, je ne joue pas le jeu, je sors ». C'est une conception peut-être un peu américaine, au sens où le réclame Emerson ou Thoreau, hein, qui se retire dans une cabane en rondin dans les Appalaches pour protester contre l'esclavage. Mais il ne faut pas sous-estimer cette faculté de résiliation, qui dans beaucoup de nos sphères d'activité est très nulle aujourd'hui, très, très peu pensée. Et puis les institutions, l'école, la santé publique, les prisons, je disais, doivent briser les logiques de contamination de misère et de malheur pour autoriser et favoriser la possibilité d'un retrait hors du monde, placer des écrans qui obligent à un minimum de respect. Et à cet égard, encore plus radical peut-être, le droit d'habiter, simplement, me semble une garantie fondamentale de ce droit de retrait, qui est une protection contre l'humiliation. Je prends l'exemple des SDF, à ce moment-là, qui sont toujours forcés de se montrer, qui n'ont jamais de quoi se retirer. Ils sont à cet égard les plus privés de la possibilité de résilier eux-mêmes. Ils sont résiliés, ils sont passivement résiliés, mais eux ne peuvent pas se retirer. Sur l'autre tableau, d'autre part, justement, une société favorable à l'estime de soi serait une société qui refuserait le sentiment général d'être superflu, qui se révolterait à l'idée qu'il vaudrait mieux pour certains de n'être pas né. Ce serait une société dont les institutions permettraient à chacun d'interpréter devant les autres qui ils sont et de devenir ainsi acteurs et auteurs de leur propre vie. Ce serait une société dont les institutions seraient les plus ouvertes à un droit de paraître, comme un théâtre où nous essaierons tour à tour de montrer qui nous sommes. Pour cela, une société d'estime devrait pluraliser les espaces d'apparition. Là, je suis dans le sillage des réflexions de Hannah Arendt, moi aussi, et donc inventer une multiplicité des lieux pour que chacun ait la chance de trouver sa plus propre expression. Je termine sur l'énigme de l'humiliation. Nous pourrions en effet nous arrêter ici après ce bref survol de quelques-uns des thèmes de l'humiliation. Mais je voudrais revenir pour finir par un détour en quelque sorte supplémentaire à tout le reste sur une question, une inquiétude résiduelle. C'est comme notre surprise rétrospective que l'esclavage ait été si longtemps admis. Et donc, voilà, il reste une sorte d'inquiétude. Certes, l'humiliation doit rester l'objet d'une inquiétude. Il ne faut pas croire trop vite en avoir fait le tour, l'avoir comprise. Il ne faut surtout pas croire qu'on puisse l'éradiquer. Il ne faut surtout pas croire qu'on puisse trouver la solution, bien sûr. Il faut apprendre à discerner les formes du problème et tenter de faire avec. Mais mon inquiétude est ici plus réflexive. C'est la question de savoir pourquoi l'humiliation est-elle si mal perçue, si omniprésente, mais un peu invisible, peu nommée, peu analysée et finalement peu combattue. Ce fut justement l'un des ressorts de notre enquête. Pourquoi sommes-nous plus aisément indignés par l'injustice, révulsés par la violence, que révoltés par l'humiliation? Un premier motif plausible serait de dire que l'humiliation est une affaire chrétienne, une affaire de bonté, de bons sentiments, une affaire de pitié peut-être au sens de Rousseau, ou du romantisme des Misérables de Victor Hugo, mais que nous sommes, nous, à l'âge adulte, à l'âge des faits, à l'âge des réalités chiffrées et tangibles. Et en effet, d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qui fait l'énigme de l'humiliation. C'est un sentiment extrêmement labile, relatif, ambivalent. On peut se sentir humilié sans raison valable, ou on peut avoir toutes les raisons d'être humilié, ne pas se sentir humilié. Comme le remarquaient par exemple, là encore, Avishai et Margalit, tout peut être humiliant pour un anarchiste. Dans la tradition anarchiste, toute institution est forcément humiliante, et il faudrait supprimer toute institution comme abritant un lien pervers entre un pouvoir exercé et le désir d'être ainsi traité. Mais une société qui exerce un capitalisme absolument sauvage pourrait à la limite être une société sans institution, une société sans aucune règle, elle serait quand même une société humiliante. A l'inverse, on a la conception stoïcienne qui tient qu'aucune institution ne peut humilier, qu'aucune forme de société ne saurait être humiliante pour qui a atteint un minimum de maîtrise de soi-même. L'esclavage n'atteint pas l'esclave. Épictète était esclave et il fut pourtant le maître à penser d'empereur, on venait de loin pour l'écouter, etc. Cette modestie inaltérable pourrait sans doute être rapprochée de l'idée chrétienne que nous sommes tous à l'image de Dieu. Dieu donne à tous sans mérite, sans égard au rang, et cela donne dignité à tous. Saint Augustin disait « Dieu ne choisit pas les dignes, mais en choisissant, il rend dignes ». Le traitement de l'humiliation, on le voit ici, est assez stoïcien. Si l'on est assez humble, on ne peut pas être humilié. Soyons donc tous humbles. Mais en fait, c'est quand même un peu facile d'être humble à l'avance pour ne jamais risquer d'être humilié. Il faudrait retrouver un petit peu la virtus de Machiavel. De l'autre côté, le sentiment quasi anarchiste qu'il y a toujours trop d'humiliation et qu'il faudrait abolir jusqu'à la dernière possibilité d'humiliation est tout aussi bien d'origine chrétienne. Bref, l'idée que l'humiliation est une affaire chrétienne est sans doute une fausse piste. Les traditions chrétiennes ont déplié tous les versants d'ambivalence. Donc, ça ne marche pas très bien. Mais il reste un indice peut-être important pour cette enquête, c'est l'affinité de l'humiliation avec l'amour. C'est l'amour qui supporte toute l'humiliation, mais c'est aussi l'amour qui ne supporte pas la moindre humiliation. L'amour n'est pas tant sensible à l'injustice qu'à l'humiliation. Mais l'amour est aussi précisément ce qui est le plus capable d'humilier. C'est au nom de l'amour qu'on humilie, comme on le voit dans les paradoxes du pardon ou dans ceux du soin, hein, soigner. C'est là que s'éprouve l'humiliation. Que vient faire l'amour maintenant dans notre sujet? C'est qu'avec l'amour seul s'introduit la haine, l'abjection. On ne comprend pas l'agressivité humaine sans mettre en jeu cette terrible force qu'est l'amour. C'est exactement ce que reprochait Freud à Adler. Adler disait qu'il y avait des pulsions agressives, simplement. Et Freud évoque l'hymne à l'amour de l'Épître aux Corinthiens et il dit d'Adler, il oublie les paroles de l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas du tout ici de l'amour gentil. On ne peut comprendre l'agression que si on comprend la force de l'amour et sa toujours possible inversion. Pierre Bayle, c'est un auteur que j'affectionne, affirmait que l'homme mieux se faire du mal pourvu qu'il en fasse à son ennemi que de se procurer un bien qui tournerait au profit de son ennemi. C'est une observation terrible qui décrit bien la force du dépit par lequel nous préférons détruire ce que nous aimons plutôt que de l'accorder à un autre. Mais on y voit poindre en même temps une réflexion sur la possibilité de se sacrifier, d'oublier son intérêt privé. La possibilité de la haine la plus atroce, la plus inhumaine d'une certaine manière, se tient au plus près de l'amour le plus admirable. Je parlais de Freud, là je fais une petite note en bas de page, c'est intéressant que Freud soit, après Copernic qui a humilié, je dirais, le cosmocentrisme, l'anthropocentrisme cosmique, après Darwin qui a humilié, je dirais, le biocentrisme de l'homme, de croire que l'homme était au centre, Freud a décentré l'homme aussi de croire qu'il était le maître de lui-même et de son désir et de sa volonté. Donc Freud continue à analyser ce processus peut-être en critiquant un certain humanisme qui s'est mis trop facilement avec un grand H au milieu de tout. Donc ça a à voir avec l'humiliation. Alors pourquoi cette affinité de l'humiliation avec l'amour? La justice refuse l'injustice de la violence ou de la pauvreté, mais l'amour balaye l'humiliation d'être soumis ou inutile. La première de ses forces, la justice, est tournée vers le lointain. Elle veut mettre des distances respectables, justement pour arrêter la violence, l'injustice, etc. La seconde, l'amour, est tournée vers le proche, vers le rapprochement. L'amour parfois rapproche trop les humains et fait une société trop chaude. Mais la justice, souvent, les éloigne trop et fait une société trop froide. C'est justement l'ambiguïté de l'amour qu'en rapprochant, il peut abriter la domestication, la mise en servitude du proche et donc l'humiliation. C'est de même l'ambiguïté de la justice qu'en éloignant et sous le couvert de distances respectables, elle peut abriter l'indifférence et la froide instrumentalisation des autres. Mais la justice réelle suppose que certaines différences et inégalités soient acceptées comme préférables pour produire une commune condition, et l'amour effectif suppose qu'une humilité soit acceptée comme préférable, une sorte de docilité confiante pour nous rendre proches, pour nous rendre capables de nous rapprocher des autres. C'est parce que les humains ont besoin de reconnaissance et pas seulement de justice qu'il faut sans cesse corriger la justice par l'amour. On peut achever cette méditation, c'est ce que je ferai, en s'arrêtant précisément à cette question de la reconnaissance. Nos sociétés, disais-je, sont préoccupées par l'injustice et par la violence davantage que par l'humiliation. C'est que la justice et la violence, sous des formes différentes, relèvent de la logique de la rétribution, c'est-à-dire du donnant-donnant. Le circuit est court, relativement facile à isoler, à imputer. L'humiliation relève de ce que l'anthropologue Marcel Hennaff appelle la reconnaissance, qui prend un chemin beaucoup plus lent. Le don et le contre-don y prennent du temps, le temps de différer, de rendre tout autre chose, tout autrement, plus tard. La violence peut déterminer des représailles plus ou moins rapides. L'humiliation, parce qu'elle affecte les circuits de la reconnaissance, engage du ressentiment de longue durée. Dans une société comme la nôtre, où nous sommes bien meilleurs pour la rétribution que pour la reconnaissance, où les formes de la reconnaissance sont précaires et fragiles, il n'est pas vraiment étonnant que la profondeur et l'amplitude de l'humiliation soient si peu perçues. Je termine sur un mot de Simone Weil, la philosophe, dans un très beau texte sur l'Iliade ou le poème de la force de 1940, elle écrivait que les hommes, je cite, « retrouveront peut-être le génie épique lorsqu'ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. » Ce sera la morale de mon histoire.
Merci, merci Olivier Abel. Et nous allons passer aux questions. Manifestez-vous quand vous avez des demandes. On en a tout de suite une là au premier rang. Oui. Manifestez-vous un peu d'avance, qu'on puisse les repérer. Pas. Donc ici, tout de suite. Monsieur, là, au premier rang. Et ici, monsieur, ici. Voilà. Qu'on vous voit. Non, d'abord là, monsieur qui a ouvert. Non, ici. C'est bon. Allez-y, là, si ça marche. Ça aurait fallu commencer avant.
Est-ce qu'il ne faut pas insister sur le fait qu'il faut absolument condamner certains actes de violence, comme par exemple la torture ou la pédophilie, en ce sens que peu importe les raisons qui sont données, que ce soit des raisons religieuses, politiques, étatiques ou autres, de toute façon, il faut condamner la violence qui est finalement reconnue, au moins par celui qui l'exerce bien souvent, comme un moyen. Est-ce qu'il ne faut pas condamner, par exemple, la torture de façon indiscutable, quelles que soient les raisons que l'on lui donne?
Oui, mais je dirais c'est déjà fait. Nous avons quand même des systèmes juridiques, nous avons une morale, nous avons des déontologies. Je ne sache pas que la déontologie de l'armée permette de torturer. Alors, je ne veux pas dire que tout est fait, il faut toujours le réaffirmer, mais en même temps, c'est... Regardez, aujourd'hui, quand un gouvernement comme celui de Damas bombarde sa propre population... Il n'y a pas besoin de le formuler, tout le monde voit bien que c'est contraire au devoir élémentaire d'un État. Alors on peut toujours le réaffirmer, mais je crois que nous avons des codes juridiques, des codes moraux qui nous instruisent là-dessus. Le problème, c'est que les hommes sont suffisamment rusés pour faire semblant de ne pas torturer en torturant. C'est ça le problème, c'est qu'on masque la violence derrière des bonnes intentions. J'ai connu une génération qui a fait la guerre d'Algérie un peu, mais c'était ça, on torture ce type, mais c'est pour pouvoir découvrir qui a mis une bombe dans l'autobus qui va tuer 60 personnes. Donc c'est une bonne action que je fais. Malheureusement, c'est une fait.
Je voudrais faire une remarque à M. Olivier Abel à propos de l'humiliation. Je trouve que si la société est consciente de l'humiliation, et je pense que les humiliations se traduisent dans le monde du travail, spécialement par les suicides qui augmentent dans certaines entreprises où on passe son temps à humilier les gens pour les rendre inutiles, pour les chasser sans avoir de conséquences.
Oui, je n'ai rien, je suis tout à fait d'accord. C'est un des exemples les plus...
Oui. Oui, moi, j'ai une autre question.
Ici, à gauche. Là.
Oui. Est-ce que, et ça sera pour les deux intervenants, ma question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une bonne violence, et d'une certaine manière aussi une bonne humiliation dans le sens de productive et peut-être même de nécessaire?
Bonne question.
Pour chacun d'entre vous.
Une bonne humiliation, oui. Parfois, ça mérite une bonne humiliation, en effet. Non, vous avez raison, que ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de... Le problème, c'est le problème du temps. Et si on prend le cas, par exemple, de... Parce que là, il y a une dimension punitive dans ce que vous dites, certainement. Donc, il y a tous les problèmes de la punition. Il faut faire attention de ne pas nous-mêmes avoir une conception magique de la violence légale, si je puis dire, de la punition, de croire que la punition va d'elle-même abolir le mal qui a été commis. Non. C'est plutôt que ça peut, en quelque sorte, si c'est interprété par celui qui est le coupable, si je puis dire, parce que là, vous envisagez quelqu'un qui mérite une bonne humiliation ou une bonne violence, peut-être que ça peut l'arrêter. D'une part, il faut arrêter le mal, et d'autre part, lui redonner au mal... Ce que disait Paul tout à l'heure, c'est-à-dire en même temps, il fait le mal, mais il n'est pas le mal, il n'est pas diabolique, donc lui redonner la possibilité de faire autre chose, de différer, de prendre, réduire son rapport au monde pour réouvrir une autre possibilité. Et ça, il y a un travail sur soi. Ce qui n'est pas sûr aujourd'hui, c'est que la prison, par exemple, fasse cela. Je ne pense pas que les humiliations actuellement aient une... Et cet effet-là, massivement, les gens, ils en sortent endurcis, ils en sortent avec encore plus la haine. Ça arrive que ça marche comme ça, mais ça n'arrive pas toujours. Donc, ça pose un problème d'interprétation.
Oui, moi, pour ma part, je crois qu'il faut faire attention à l'usage des mots. Aujourd'hui, on est un peu léger, me semble-t-il, dans notre société. Il ne faut pas trop matraquer le langage. Alors, bonne violence... Le problème, c'est qu'on risque toujours de la multiplier sous prétexte qu'elle est bonne. Eh bien, il n'y a pas de raison de lui donner des limites. Alors, je crois qu'il faudrait distinguer, si on avait le temps, on pourrait le faire, entre la violence, la force, la contrainte, la discipline. Est-ce que des parents qui punissent un enfant exercent de la violence sur eux? Il n'y a pas de bonne violence. Il faut que les parents, en effet, exigent un minimum de discipline, de propreté, de politesse, on voudra. Moi, j'hésiterais plus que ça. Je crois que ce n'est pas une question de violence. Une violence, c'est quand ils humilient l'enfant. Tu es un pauvre type, tu ne réussiras jamais. Alors ça, c'est de la mauvaise violence. Voilà, je crois qu'il faudrait un peu se méfier. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne violence. Il y a des contraintes nécessaires dans la vie, dans les relations humaines. La police fait son rôle, si vous voulez. Bon, mais ce n'est pas une violence. Le flic qui est au coin de la rue pour empêcher que les gens grillent le feu rouge, il ne cherche pas une violence. Symbolique, dirait elle, tu sers. Enfin, bon, c'est pas une violence. Mais évidemment, si vous grillez le feu rouge, il va vous donner un PV. Ou vous retirez des points de votre permis. Mais ça, c'est une violence à laquelle vous avez consenti comme citoyen, quand même, non, en gros. Parce que si vous êtes victime vous-même d'un chauffard qui grille le feu rouge, vous seriez bien content qu'il y ait eu un flic pour l'arrêter.
C'est ce qu'il dit.
Bon, ben, je plaisante un peu. Voilà, je crois qu'il faut se méfier quand même l'usage des mots qui devient, risque de devenir banal et qui fausse les choses.
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mon problème ici, c'est que je comprends très très bien ce que vous dites, les deux professeurs. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que vous avez fait un bon diagnostic, puisque j'ai compris tous les concepts que vous avez dit, freudien, Adler, tout ça, je le sais par cœur. Mais vous me posez personnellement un problème. Mais alors, quelle est la victime? Puisque vous n'avez ni l'un ni l'autre parlé de victime. Alors que le tribunal et la prison et l'humiliation et la pédophilie et toutes ces histoires-là, ça se termine par un jugement. Et ce jugement humilie forcément l'agresseur. Et donc, en réalité, moi, j'ai l'impression que dans cette conférence très, très importante, j'étais très, très proche de M. Abel, aussi le premier professeur, mais je suis arrivé en retard. Mais j'ai l'impression quand même que le traitement, quelle est votre prise en charge de l'humiliation, de la reconnaissance que M. Abel, vous l'avez appelé la reconnaissance, et surtout, l'estime de soi, il faut la relativiser. Parce que vous avez abordé les immigrés, les étrangers, la police, la justice, tous les problèmes de la société qui touchent à la psychiatrie. Merci.
Oui, en fait, il y a aussi encore autre chose qu'il aurait fallu beaucoup plus déplier, mais je trouvais que c'était déjà trop long, m'avait dit 25-30 minutes. C'est la distinction entre l'humiliateur et l'humilié. J'ai parlé de l'humiliation. Alors, bien sûr, on sous-entend que c'est comme le pardon. Il y a des situations différentes. Derrière cela, simplement, il y a des jeux. L'humiliateur peut être à son tour humilié, etc. Bon. Mais il y a quand même une asymétrie absolument radicale qui est en effet tout à fait importante. Si c'est ça que vous voulez désigner, je suis absolument d'accord avec vous. Avec d'ailleurs une question éthique, une vieille question platonicienne, est-ce qu'il vaut mieux être humiliateur ou est-ce qu'il vaut mieux être humilié? Si de toute façon il y a partout de l'humiliation, c'est comme est-ce qu'il vaut mieux commettre l'injustice ou est-ce qu'il vaut mieux subir l'injustice? Bon, c'est des vieux paradoxes, mais qui aident à penser, à mesurer, je dirais, la profondeur du problème et la profondeur de l'asymétrie quand on traite de ce genre de notions comme cela.
Non, vous avez raison, je n'ai pas parlé en effet de victimes, et peut-être qu'il aurait fallu le faire, ça n'était pas tout à fait mon sujet, il y avait déjà beaucoup de choses à dire en 35 minutes, donc je ne pouvais pas tout dire. Il y a peut-être aussi une résistance plus forte de ma part à parler de victimes, c'est qu'aujourd'hui nous considérons tous comme des victimes, plus ou moins, n'est-ce pas? C'est la victime qui... Si vous pouvez dans un débat prendre la position de la victime, de celui qui est méprisé, bafoué, méconnu, etc., vous avez gagné. Parce que personne n'ose s'en prendre à la victime. Et on en trouve de tous les côtés, les victimes. Or, souvent, les victimes, elles sont aussi responsables d'un nombre de choses qui leur arrivent quand même. Voilà, nous sommes responsables d'un nombre de choses. Non? Ah oui. Comment? Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais il y a une pente, vous l'avouerez quand même aujourd'hui, à la victimisation. Ah oui.
Bon. Bon,
prenez les micros peut-être, parce qu'on n'entend
oui,
pas bien.
Si quelqu'un veut faire une intervention, qu'il prenne le micro. Les deux. Non, madame, et puis ce sera notre dernière question. Hein.
Oui, et c'est vrai que la notion de l'humilier comme de celui de l'agresser, ça a à voir avec la force de l'identité. Tout part de la construction de l'identité. Vous en avez parlé l'un ou l'autre au début. Cette construction de l'identité, non ? Pourquoi des gens se sentent humiliés et d'autres pas ?
C'est ça.
Ou d'autres moins.
C'est ça l'énigme, oui. C'est ça qui est très... Mais il y a des gens quand même qui ont peut-être en effet accumulé assez d'identité, d'assurance, de reconnaissance pour ne pas être atteint immédiatement, intolérable pour eux. Donc c'est en effet une question tout à fait importante. Mais c'est ça que dont je disais que une société qui ne pense que la rétribution ne mesure pas l'importance de ce travail de la reconnaissance, qui est un travail en effet de constitution de l'identité qui prend du temps et qui demande ce qui est le plus dangereux et qui est l'amour. C'est le problème, c'est que l'amour est en même temps ce qui est terriblement dangereux. Je ne veux pas le dénier, au contraire. Mais justement, c'est ça le nœud pour moi, le nœud plutôt sombre et magnifique en même temps.
Oui, c'est vrai. Bien. Il y a à voir avec l'amour, tout à fait. Merci.
Bien, nous allons rester là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain. Merci.